Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On peut passer à côté comme si de rien n'était à côté de ces calvaires qui bordent les routes ou les champs que l'on croise dans chaque village de France ou presque, mais aussi à côté de ces sanctuaires ou plus largement de ces lieux de dévotion mariale qui aussi, bien que plus discrets, couvrent la France, autant de signes qui sont là pour ceux qui veulent bien les voir, comme on peut lire sur d'autres sujets, des signes des temps. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans la France des profondeurs, cette France qui, quoi qu'on en dise, ne passera pas. Les sanctuaires oubliés de France et d'Occitanie, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce mardi, traditionnellement dévolu à un coup de zoom sur les réalités de la vie chrétienne de notre région. Pour nous en parler autour du plateau, Laurent Bachot, vous êtes prêtre recteur des sanctuaires de Bétharram dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour.
Bonjour.
Nous rejoindra un petit peu plus tard Dominique Letourneau, qui est prêtre et auteur donc d'un guide des sanctuaires mariaux de France, paru aux éditions Artege, tout juste paru. Et à la fin de cette émission, Christophe Battu, qui est prêtre et lui recteur du sanctuaire Notre-Dame de Seignac dans l'Aveyron. Alors on va commencer avec vous, Père Laurent Bachot. Je le dis quand même en introduction, cette émission a été motivée donc par la parution de ce livre. On se plongera dedans. Livre qui, pour faire écho à mon introduction, ça ne vous surprendra peut-être pas, avant qu'on parle des sanctuaires de Bétharram, répertorie près de 2500 lieux de dévotion mariale en France, sanctuaires et autres, ce qui fait reprendre à son auteur cette expression du pape Pie XI. Il est certain que selon un ancien adage, le royaume de France a été appelé le royaume de Marie, et cela à juste titre. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette citation du pape Pie XI?
Oui, tout à fait. Bon, ici, c'est sûr que dans les Pyrénées, nous avons de nombreux lieux où cette dévotion mariale a été effectuée et donc se prolonge aujourd'hui encore, et notamment à Bétharram.
Alors, Bétharram, allons-y. On va voyager. Voilà, on va faire comme un reportage sur France 3 ou sur TF1. Un petit coup de cœur régional. Bétharram se trouve donc au bord du Gave de Pau. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire les lieux comme si on était du haut d'un hélicoptère?
Alors, Bétharram est au bord du Gave. Effectivement, c'est le même Gave qui coule à 14 kilomètres en amont, donc à Lourdes, devant la grotte de Massabielle qui coule ici à Bétharram. Et donc, si vous voulez, le sanctuaire se trouve coincé, pourrait-on dire, entre le Gave et la colline. Donc, c'est un endroit très très verdoyant. Et donc, c'est un endroit aussi très agréable, surtout en été.
Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de bâtiments. Vous pouvez peut-être commencer par décrire les bâtiments qui longent justement le Gave de Pau. Et après, dans la montagne, on y reviendra, on trouve un certain nombre de chapelles.
Voilà, donc c'est le grand chemin de croix, le calvaire, que nous avons avec 15 chapelles, donc qui longent la colline pour arriver sur l'esplanade de la colline où se trouve effectivement la chapelle de la résurrection. Et en face, le cimetière de notre congrégation de Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram.
Voilà, Bétharram, c'est aussi... Il y a une école, non, là où vous êtes, il me semble-t-il?
Oui, donc il y a une école qui est fondée par Saint-Michel Garicoïtz en 1837, et donc qui existe toujours, le collège de Bétharram, l'ensemble scolaire Beauramont.
Alors, si on se plonge un petit peu dans l'histoire de ce lieu, il n'y a pas toujours eu des bâtiments, ce chemin de croix assez impressionnant dont on parlera, et puis celui d'éducation. Pour autant, au XVIIe siècle, ai-je lu, Saint Vincent de Paul disait déjà de ce lieu, donc les sanctuaires de Bétharram où vous vous trouvez, que c'est le deuxième ou le troisième lieu de dévotion mariale du royaume de France. Racontez-nous la genèse de ce sanctuaire.
Oui, alors tout a commencé au XVe siècle, des bergers qui ont découvert une image de la Vierge Marie au bord du Gave. Ces bergers ont porté cette image à l'église paroissiale qui est à peu près à 800 mètres, mais l'image la nuit est revenue ici sur place, comme pour indiquer que c'est ici, au bord de ce Gave, que la Vierge voulait être honorée. Donc une chapelle a été construite à ce moment-là, mais détruite aussi lors des guerres des religions en 1569.
Alors ça, c'est pour les tout débuts. Il y a d'autres histoires aussi qui disent fait que ça soit un lieu saint. Racontez-nous les deux, trois histoires les plus frappantes.
Oui. Donc, une autre tradition orale, c'est que ici nous sommes au bord du Gave, et donc une fille est tombée dans le Gave, elle allait se noyer, elle a invoqué la Vierge Marie qui lui est apparue avec son fils Jésus, lui tendant une belle branche, un beau rameau, et beau rameau en béarnais, c'est Betharam. Donc Betharam, ça fait référence donc à ce miracle du beau rameau.
Voilà, parce que la jeune fille, donc, s'est accrochée à ce rameau et a été sauvée de la noyade. Il y a une autre histoire. En 1616, l'évêque d'Auch avait fait planter une grande croix de bois en haut de la montagne de l'Estel. Betharam, c'est l'Estel Betharam, c'est le lieu dit, le village d'à peine 1000 habitants. Racontez-nous ce qui s'est passé ou ce que certains habitants ont vu.
1616, dans l'archevêque d'Auch, pour établir le culte catholique, après la pacification, après les guerres de religion, a apporté une statue de la Vierge Marie ici, qui se trouve dans notre sanctuaire, donc une Vierge du XIVe siècle, donc Marie qui allaite son fils Jésus. Et en même temps, donc, il a élevé une croix sur la colline. Et puis 2 mois après, lors d'un orage, donc cette croix s'est renversée, hein, mais elle s'est relevée dans un halo de lumière et des gens qui étaient en train de faucher la fougère en septembre ont été témoins de ce miracle, donc le miracle de la croix en 1616, ici à Betharam, en septembre 1616. Et donc c'est ce qui va procurer, si vous voulez, ou bien c'est ce qui va faire le démarrage d'un chemin de croix ici à Betharam.
Alors Père Laurent Bachot, donc Betharam est un vieux lieu de dévotion mariale en France. Qu'est-ce qu'on sait en fait du rayonnement de ce sanctuaire, on va dire, à une époque plus lointaine, donc au XVIIe, XVIIIe siècle? On sait qu'il y a Notre-Dame de Garaison aussi dans notre région, premier lieu d'apparition mariale,
oui,
en tout cas reconnu par l'Église, qui a été un grand lieu de dévotion. On dit que c'était un autre Lourdes. Est-ce que vous aussi, vous étiez en d'autres temps un autre Lourdes?
Oui, tout à fait. Donc c'est sûr que à ce moment-là, surtout à partir de 1600, le XVIIe siècle a été vraiment un siècle faste ici à Betharam. Et donc, il y a eu un prêtre de Paris qui a favorisé cela, Hubert Charpentier, qui a créé ici une société de prêtres. Et donc, dès 1660, donc, il y a eu la construction de ce sanctuaire que nous avons, et en même temps, dans la construction du chemin de croix, et aussi, donc, la construction du vieux pont, en 1687. Donc le XVIIe siècle a été vraiment un siècle...
Mais c'est-à-dire, il y avait quoi? Il y avait des milliers de gens qui venaient de toute la France, il y a beaucoup d'ex-voto. Qu'est-ce qu'on a comme, comme trace?
Effectivement, ici, il y a eu des milliers de personnes qui venaient. Bon, c'est surtout quand même ici la région, surtout Béarn et Bigorre. Mais c'est sûr qu'il y a eu ici des pèlerinages très importants qui se sont passés déjà en 1616, lorsque l'archevêque d'Auch est arrivé. Donc il est arrivé ici avec une procession de 6000 chrétiens, donc déjà à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il y a eu aussi de nombreuses guérisons, de nombreux miracles ici. Et Mgr Marquet, archevêque de Paris de l'époque, qui était originaire des Pyrénées, a relevé 80 cas de guérison et de miracles entre 1640 et 1680 ici à Betharam.
Quel type de guérison et de miracles? Est-ce que vous auriez un ou deux exemples?
Bon, des boiteux, des paralytiques, des aveugles, donc, ici à Betharam.
Voilà, et qu'est-ce qui leur arrivait à ces boiteux et à ces paralytiques? Quels étaient les miracles? Ils marchaient et ils voyaient?
Ah oui, donc bien sûr, les paralysés étaient guéris, les aveugles voyaient, et les boiteux marchaient et bondissaient. Voilà, c'est sûr. Et cela est représenté ici dans les 6 tableaux que nous avons autour de l'orgue, dans ces peintures que nous avons ici. Donc, ça, c'est un témoin donc de ces guérisons et de ces miracles ici à Betharam. Et encore aujourd'hui, nous avons ici une fontaine, la fontaine Saint-Roch, qui est témoin de cela.
Alors on y viendra, on finira peut-être cette interview par quelques fioretti des grâces qui sont encore données en ce lieu. J'aimerais juste que vous nous parliez de ce grand chemin de croix, très impressionnant, donc à flanc de collines, juste contre ces sanctuaires. Donc un chemin de croix avec des stations qui ne sont pas juste des représentations du chemin de croix, mais qui sont carrément des chapelles avec 15 stations. Décrivez-nous un peu ce chemin de croix.
Alors le chemin de croix, donc ce sont des chapelles qui longent le flanc de la colline. Alors ces chapelles ont été détruites et rasées donc par la Révolution française 1789-1792. Et ensuite, après la Révolution française, il y a eu aussi un temps de pacification. Et c'est un prêtre venu du Pays Basque, Michel Garrigues, qui va, si vous voulez, rétablir ce chemin de croix. Et donc, si vous voulez, la reconstruction du chemin de croix s'est réalisée de 1840 à 1873.
Mais alors, décrivez-nous surtout ces chapelles qui sont très impressionnantes. On se demande où est-ce qu'ils ont trouvé les pierres et les sous pour construire un chemin de croix aussi monumental.
Ah oui, mais c'est donc si vous voulez, ça prouve, si vous voulez, c'est témoin de ces grands pèlerinages qui existaient ici à Betharam, des milliers de personnes. Et donc, si vous voulez, c'est aussi un chemin de croix particulier qui représente davantage les scènes de l'Évangile. Les scènes de l'Évangile, par exemple, l'agonie à Gethsémani, par exemple aussi donc la trahison de Judas, par exemple aussi donc Pilate qui se lave les mains. Donc c'est un chemin de croix particulier ici à Betharam qui insiste davantage sur tout le récit de la Passion, puisque c'est seulement à la station 7 que Jésus prend sa croix. Et c'est ainsi que, si vous voulez, ça décrit davantage les scènes de l'Évangile. Et pour aboutir, ce qui était nouveau à ce moment-là, jusqu'à la 15e station, la chapelle de la Résurrection.
Voilà, chapelle aussi assez monumentale, si j'ai bien compris.
Alors ensuite, maintenant, nous sommes dans la période de restauration, parce que donc ces chapelles ont été vraiment bien abîmées par la végétation en particulier, et donc nous sommes en train de... C'est la période de la restauration actuellement, et nous avons une première tranche qui est presque achevée des 4 premières stations.
Alors, parlez-nous un petit peu du présent, Père Laurent Bachot. J'ai vu un reportage de France 3 qui décrivait ce lieu et qui montrait que c'était encore un lieu de pèlerinage et de dévotion. Qu'est-ce que vous auriez à nous raconter sur les grâces et quelques fioretti qui signent que ce lieu n'est pas un ancien lieu de dévotion et qu'on peut s'y rendre aussi pour y demander des grâces?
Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, tout est parti aussi, si vous voulez, Betharam revit aussi grâce à Lourdes, même si au départ, les confrères de Saint-Michel Garrigues doutaient de cela et donc reprochaient au père Garrigues de faire la promotion de Lourdes. Parce que Bernadette, bien sûr, est venue ici, Bernadette Soubirous est venue ici donc en pèlerinage, et même l'évêque de Tarbes, après les apparitions, a envoyé ici Bernadette pour une vérification de sa santé spirituelle, psychique, tout cela. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a un profond lien entre Lourdes et Betharam. Et par exemple, la semaine dernière encore, nous avions un pèlerinage d'Indonésiens ici. Par exemple aussi, nous avons eu l'année dernière le diocèse de La Rochelle qui est venu et qui a célébré ici le sacrement des malades pour 120 malades, si vous voulez, le pèlerinage diocésain avec 120 malades. Parce qu'ici, ils trouvent donc un lieu de calme, de silence, qui se prête bien à des célébrations des diocèses et des paroisses.
Vous êtes témoin de quel type de grâces qui sont données en ce lieu? Mettez-vous à la place de ceux qui sont peut-être loin des réalités de la foi et qui sont un peu interrogatifs quant à toutes ces réalités spirituelles.
Oui, alors c'est sûr que les sanctuaires aujourd'hui donc ont une vitalité importante, et il y a des gens qui ne fréquentent plus les paroisses et qui fréquentent nos lieux. Et lorsque nous accueillons ces visiteurs, ces pèlerins, eh bien, nous sommes témoins effectivement de gens qui retrouvent un peu cette soif spirituelle qui était comme endormie en eux et qui se posent des questions. Et le chemin de croix en particulier est un chemin qui leur permet de s'associer d'une certaine manière à l'Évangile au Christ, parce que des gens qui viennent ici sont quand même souvent connaissent beaucoup de souffrances, de douleurs, d'épreuves. Et donc ici, ils retrouvent une certaine pacification, une certaine sérénité. Donc je suis témoin de cela en accueillant ici les pèlerins et les visiteurs.
Est-ce qu'il ne faut pas chercher les miracles, hein, évidemment, mais vous-même, depuis que vous êtes recteur de ce sanctuaire, ça sera ma dernière question, est-ce qu'il y a l'une ou l'autre grâce qui vous ont particulièrement frappé? Et dans ces cas-là, racontez-nous ces histoires.
Bon, si vous voulez, ce ne sont pas peut-être des guérisons physiques, mais c'est sûr que c'est une pacification, une sérénité intérieure en particulier. Donc je peux vous dire qu'il y a des gens aussi qui ne se confessaient plus depuis de très longtemps et qui retrouve ici donc un lieu où ce sacrement peut être célébré et est célébré de manière plus personnelle, et cette miséricorde reçue dans ce sanctuaire, avec aussi un peu ce sourire de la Vierge Marie qui tend toujours ce rameau sauveur aux personnes. Donc je suis témoin effectivement de sérénité et de paix retrouvée par des personnes qui étaient très angoissées.
Eh ben merci beaucoup Père Laurent Bachot, je rappelle vous êtes prêtre et recteur donc des sanctuaires de Bétharram, hein. C'est un sanctuaire mais aussi des, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs
sanctuaires de Saint-Michel-Garicoïte.
Voilà, c'est ça. Ce sanctuaire à découvrir donc dans les Pyrénées-Atlantiques. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver Dominique Letourneau, prêtre et auteur donc d'un ouvrage paru aux éditions Arthège, guide des sanctuaires Mario de France, pour un coup de zoom plus large sur la France et sur l'Occitanie.
Emmanuel Pella.
Les sanctuaires oubliés de France et d'Occitanie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous étions en début d'émission avec Laurent Bachot, qui est prêtre recteur des sanctuaires de Bétharram dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes maintenant avec Dominique Letourneau, vous êtes prêtre et auteur donc d'un ouvrage que j'ai cité au début de cette émission, Guide des sanctuaires Mario de France, paru aux éditions Arthège. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, de vous rendre présent par téléphone. Voilà, c'est donc un guide impressionnant parce que on imagine peut-être pas exhaustif, mais en tout cas très fourni, que vous venez de publier. Alors, avant toute chose, j'aurais envie de dire pourquoi le prêtre que vous êtes s'est lancé dans cette aventure, répertorier ou essayer de répertorier tous ces lieux de dévotion mariale aux quatre coins de notre pays?
Tout simplement parce que j'ai rédigé avec un ami Ambrogi un dictionnaire encyclopédique de Marie et que l'éditeur nous a demandé de faire ce guide de sanctuaire. Alors mon co-auteur n'a pas pu poursuivre la tâche, mais je m'y suis attelé et j'ai eu une grande surprise de constater le nombre de sanctuaires et de lieux de dévotion actifs à la Sainte-Vierge en métropole, où nous sommes arrivés à près de 2000 lieux actifs par actifs, j'entends, où il y a au moins un pèlerinage, une procession organisée chaque année, donc en dehors des dévotions privées, ce qui est absolument considérable. Je ne m'attendais pas à en voir autant, et il y en a effectivement partout dans toute la France.
Non. Voilà, non. C'est vrai que si on fait la division, enfin 2000, vous citez dans votre introduction, 2900 lieux actifs.
2900, hein. Vous avez des départements comme le Finistère, il y en a 140, le Finistère, le Nord, la Haute-Corse, sont des départements où il y en a énormément. Mais ça traduit bien le fait que, comme Benoît XIV le disait déjà au XVIIIe siècle, la terre de France est terre de Marie, idée qui a été reprise par Pie XI dans sa lettre à la Gaule, fille de l'Église, en 1922, où il disait « Il est certain que, selon un ancien adage, le royaume de France est appelé royaume de Marie, et cela à juste titre ».
Alors justement, je le citais au début de l'émission, je donnais cette citation en début d'émission, pour ceux qui sont moyennement familiers de la foi, je sais qu'on en a quand même quelques-uns parmi nos auditeurs, si ce n'est pas un certain nombre, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette expression, que la France pourrait être appelée royaume de Marie, bref, que la mère de Jésus aurait un souci particulier de la France, comment comprendre ça? Ça peut paraître un peu étrange.
Ça peut paraître étrange, mais la France paraît un pays privilégié par la providence divine parce qu'elle est la fille aînée de l'Église. Avec le baptême de Clovis par Saint Rémy de Reims, à la fin du 5e siècle, devient la seule nation catholique, donc la seule à conserver intégralement la foi catholique. Les autres sont des pays qui ont une partie de la foi catholique, ils sont pas totalement, pas entièrement, ou ils sont encore païens. Donc la foi catholique, elle est sauvée, préservée, et elle va se répandre à partir de la France. Et ce n'est pas seulement la Sainte Vierge qui s'intéresse tout particulièrement à la France, on pourrait dire, mais aussi Dieu, puisque on voit qu'il intervient dans la vie de la France. Souvent on dit que Dieu aime les Francs tout particulièrement. Ça se manifeste dans le fait que la France parfois tombe très bas mais se relève toujours, dans la mission toute particulière que Jeanne d'Arc a pu recevoir aussi. Et Jeanne d'Arc, on va fêter d'ailleurs l'année prochaine avec le centenaire de sa canonisation et de la fête nationale de Jeanne d'Arc. Donc on voit qu'il y a une confiance en quelque sorte de Dieu dans notre pays.
Avant qu'on mette un coup de zoom sur l'Occitanie, sur notre région, ou qu'on vienne un peu plus largement sur quelques-unes de vos découvertes, alors ça va paraître un peu étrange peut-être à certains, mais je me dis que ça peut avoir quelque intérêt. Il y a aussi un certain nombre de lieux d'apparition, dont la plupart sont reconnus par l'Église, qui, dit-on, forment un large M marial aux quatre coins de la France. Racontez-nous cette histoire.
En réalité, bon, le large M marial, c'est celui des cinq grandes apparitions de la Sainte Vierge en France au XIXe siècle. Mais en réalité, très peu des apparitions sont reconnues officiellement par l'Église. Il y en a à peu près 40 dans le monde que j'ai recensé, dont un tiers en France. Donc c'est très peu sur toute l'histoire. Mais en revanche, j'ai recensé 153 lieux de culte marial correspondant à une apparition de la Sainte Vierge, dont d'ailleurs 28 rien que dans l'Occitanie.
Alors juste sur le M, expliquez davantage, du coup, quels sont ces sanctuaires?
C'est Notre-Dame de la rue du Bac, la Médaille Miraculeuse, c'est Notre-Dame de Lourdes, c'est Notre-Dame de la Salette, c'est Notre-Dame de Pellevoisin et Notre-Dame de Pontmain.
Voilà, donc si on trace une ligne comme ça sur la carte de France, on se rend compte que ça fait un grand M. Avant qu'on en vienne à l'Occitanie et la Haute-Garonne, est-ce que vous avez eu des coups de cœur particuliers au long de cette découverte, de ce travail de bénédictin?
Écoutez, Écoutez, pas tout à fait, parce que pour moi, chaque lieu de dévotion envers la Sainte Vierge, c'est la dévotion envers ma mère. Donc c'est toujours ma mère, quelle qu'elle soit, quel que soit le titre qu'elle reçoit, quel que soit le message qu'elle puisse délivrer, quelle que soit la façon dont elle se présente aux individus, c'est toujours la Sainte Vierge, toujours ma mère. Donc partout, je me sens à l'aise. Donc on m'a posé souvent la question, je suis parisien d'origine, évidemment peut-être la rue du Bac m'attirait davantage parce que je l'avais sur place, mais j'aurais été ailleurs, ça aurait été autre chose. Donc c'est toujours Marie, c'est toujours notre mère.
Alors autre réalité, c'est le fait qu'il y ait de multiples reproductions de la grotte de Lourdes. Ça pour nous dans le sud-ouest et notre radio étant aussi à Lourdes, ça nous marque. J'avais souvenir d'un chapelain des sanctuaires de Lourdes qui à l'occasion je crois des 150 ans des apparitions avait lui fait un voyage dans le monde entier et découvert des grottes de Lourdes un peu partout dans le monde. Vous dites qu'il y en a un peu partout en France ?
Ah, il y en a des quantités importantes. Je ne sais plus combien j'en ai répertorié dans ce guide, mais j'en ai mis beaucoup de celles qui sont actives. Je me rappelle, me semble-t-il, que dans le simple département de la Moselle, il y en a quelque chose comme 400. Dans Vendée, il y en a beaucoup aussi. Il y en a partout, effectivement. Et puis, dans le monde entier, il y en a une qui a été mise relativement récemment au Vatican aussi. Donc, la Côte de Lourdes a fait tâche d'huile.
Donc, c'est des reproductions de la Grotte de Lourdes, mais c'est encore des lieux de dévotion active. Vous dites qu'il y a au moins...
Pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont encore des lieux. J'en ai plus de... Je crois que sur les 2900, j'en ai plus de 200 qui sont des reproductions de la Grotte de Lourdes. Donc, ce sont des lieux actifs où... indépendamment du fait que dans certains autres, il y a juste la citation de récitation du chapelet ou une messe. Ça, j'ai pas retenu ça comme parce que c'est pas un pèlerinage ou une procession.
Alors, parlez-nous de l'Occitanie maintenant. Je n'ai pas fait le compte. J'avoue, j'ai pas fait l'addition pour tous les départements de notre région. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire dans les grandes lignes à propos de l'Occitanie et de tous ces sanctuaires, on va dire connus et moins connus?
Alors, vous avez 13 départements qui abritent 366 sanctuaires ou lieux de culte, donc ça fait un huitième de l'ensemble, dont 28 sont des lieux d'apparition, dont à peu près un cinquième de l'ensemble de la France. Donc la Citanie apparaît comme une région privilégiée. Et les apparitions, si vous voulez que je les évoque brièvement, disons peut-être peut évoquer plus celles qui sont plus importantes. Par exemple, évidemment la première, c'est Saint-Bosie de la Sylve, qui mérite une attention particulière parce que c'est le titre de la Sainte Vierge, l'invocation, c'est Notre-Dame du Dimanche. Pourquoi ? Parce que en 1873, il y a quelqu'un qui travaille dans sa vigne, Marie lui apparaît pour lui demander de ne pas travailler dimanche. Il ne faut pas travailler dimanche. Heureux ceux qui croient et malheureux ceux qui ne croient pas. Il faut aller à Notre-Dame de Gignac en procession et vous serez heureux avec toute votre famille. Bon, donc elle dit de placer une croix, etc. Et donc c'est une apparition pour qu'on sanctifie le dimanche.
Alors,
ça s'est produit à la Salette et à Notre-Dame de Lauziers, tous deux dans le département de l'Isère.
Alors là, juste, c'était où? Où est ce sanctuaire que vous décrivez?
Ça, c'est à Saint-Bosie de la Sylve.
Oui, et c'est quel département?
Ça, c'est l'Hérault.
D'accord, dans l'Hérault.
L'Hérault. Donc là, je vous donne des choses qui sont dans l'Hérault, là. C'est Saint-Bosie de la Sylve. Donc, c'était reconnu par l'évêque en 1876. Et puis après, vous avez à Saint-Chinian, toujours dans l'Hérault, un pèlerinage de Notre-Dame de Nazareth qui est construit après une apparition de la Sainte Vierge à un berger en 840. Vous avez à la Gros d'Agde une autre lieu d'apparition mariale aussi, un jour de violente tempête, le pays est menacé d'inondation, des moines prient et un dieu voit apparaître la Vierge Marie agenouillée sur un rocher qui va laisser une marque toujours visible de ses genoux. La tempête se calme et une chapelle est édifiée à Notre-Dame de l'Agenouillade, au Gros d'Agde, qui vient le pèlerinage et qui est le pèlerinage le 15 août.
Qu'est-ce que vous avez en Midi-Pyrénées, plus précisément, puisque nous on couvre surtout Midi-Pyrénées?
Midi-Pyrénées, c'est Midi-Pyrénées que vous avez comme département, les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, vous avez évidemment Notre-Dame de Lourdes, mais Bétarame, que vous avez parlé tout à l'heure. Alors, il y a aussi Notre-Dame de Garaison à Montléo-Malignolac, qui est un lieu d'apparition, qui a subi une éclipse du fait de Lourdes, qui est pas bien loin de là. Évidemment, ça a commencé, mais enfin, c'est une apparition qui remonte à 1515. Et la Sainte Vierge demandant qu'on lui construise une chapelle, et il y a un miracle qui, c'est un miracle de pain, la transformation du pain noir en pain blanc. Il y avait une crise et donc le pain est bon et mangeable. Vous avez aussi toujours dans les Hautes-Pyrénées un autre lieu d'apparition à Montoussé, qui est une église qui est construite au 14e, mais dès l'apparition de trois enfants a lieu en 1848.
Alors juste, Dominique Letourneau, juste avant qu'on aille un peu plus loin, c'est vrai que quand on se plonge dans votre ouvrage, j'ai découvert que par exemple en Haute-Garonne, il y avait six lieux supposés d'apparition mariale. On peut légitimement se poser des questions, parce que des lieux d'apparition mariale, on sait que l'Église est assez prudente, donc normalement il y a tout un système de reconnaissance. Vous dites qu'il y en a à peu près 40 qui ont été reconnus dans le monde. Ne serait-ce qu'en Haute-Garonne, il y en a 6, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est une tradition populaire, c'est de la légende, ou alors c'est juste que c'était il y a tellement longtemps qu'il n'y avait pas de procédure de reconnaissance, que comment on peut accréditer ces apparitions supposées?
Certains y verront peut-être une légende, mais à partir du moment où vous avez un culte, vous avez vénération, vous avez les autorités locales qui viennent en pèlerinage, on peut dire que quand même il y a un fondement. D'autre part, il y a les apparitions, il y a les reconnaissances officielles et les reconnaissances officieuses. Je veux dire par là que quand l'évêque reconnaît le message ou reconnaît, par exemple, la médaille miraculeuse, l'apparition de la médaille miraculeuse à Paris n'est pas reconnue. C'est reconnu, c'est la médaille elle-même. Mais c'est quand même important parce qu'elle est reproduite dans le monde entier. Quand le Saint-Père accorde le couronnement de la statue de la Sainte Vierge correspondante, quand le Saint-Père élève le sanctuaire au niveau de la dignité de basilique mineure. Tout ça sont des connaissances indirectes, mais c'est vraiment une reconnaissance du lieu. Donc il faut rajouter tous ces genres d'activités d'action pour dire, quand par exemple aussi où l'évêque reconnaît, accepte qu'un culte soit accordé à la Sainte Vierge, sans reconnaître l'apparition elle-même. Donc tout ça sont des éléments qui se rajoutent. Il faudrait allonger la liste considérablement, parce que là c'est énorme, hein, ce genre de choses.
Pour finir, Dominique Letourneau, qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui s'interrogent sur l'opportunité d'aller dans un de ces sanctuaires ou lieux de dévotion, hein, comme autant de marqueurs sur le territoire français? Vous avez une expression, vous dites que c'est comme des bornes millénaires dressées pour rythmer le temps de notre itinéraire terrestre. Ils nous permettent de prendre un moment de repos au cours du voyage et de retrouver la joie et la sécurité pour la route. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui n'en sont pas forcément familiers, qui hésitent un petit peu? Qu'est-ce que le pasteur que vous êtes peut leur dire pour les inciter à franchir le pas?
Bah, qu'ils essayent, qu'ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre d'aller se rendre sur un lieu de piété et de prier. Et puis qu'ils confient leurs intentions, leurs doutes, leurs inquiétudes à la Sainte Vierge et lui demandent de les aider. Parce qu'elle est notre mère à tous, quels que nous soyons. Elle est là prête à nous orienter vers son fils et à venir à notre aide. Donc n'hésitons pas à aller dans un sanctuaire marial. C'est le réflexe normal d'un enfant. Quand il craint quelque chose, il doute, il a des incertitudes, il va vers sa mère, logiquement, puisque son père habituellement.
Voilà, merci beaucoup Dominique Letourneau. Je rappelle, vous êtes l'auteur d'un ouvrage Guide des sanctuaires mariaux de France. Et dans votre introduction, vous dites la chose suivante: on ne parlera jamais trop de Marie, on ne vantera jamais trop les qualités et les vertus de Marie. Un grand merci à vous. On fait une deuxième pause musicale. Et puis on va retrouver Christophe Battu, qui est prêtre et recteur du sanctuaire Notre-Dame de Seignac, qui est donc un sanctuaire dans l'Aveyron, qui avait été un petit peu oublié et sur lequel le diocèse a décidé, on va dire, de mettre le paquet. Ça va être l'occasion de montrer que bien de ces lieux ne sont pas des lieux abandonnés, mais sont des lieux qui deviennent ou qui redeviennent des cœurs battants de la vie chrétienne et spirituelle de ces départements.
Qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.
Radio Présence à Cahors, 92.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les sanctuaires oubliés de France et d'Occitanie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, nous étions au début de l'émission avec Laurent Bachot, qui est prêtre et recteur des sanctuaires de Bétharram dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans la deuxième partie de l'émission, avec Dominique Letourneau, auteur d'un ouvrage, Guide des sanctuaires mariaux de France, paru aux éditions Artege. Et on finit cette émission donc avec vous, Christophe Battu, vous êtes prêtre et vous recteur du sanctuaire Notre-Dame de Seignac dans l'Aveyron. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous étiez, il n'y a pas si longtemps que ça, à cette antenne, pour ceux qui sont extrêmement fidèles à l'émission. Donc on finit cette émission par une balade dans l'Aveyron, pour un sanctuaire qui reprend de plus en plus de couleurs. Je voulais commencer tout simplement, comme je l'ai fait avec Laurent Bachot, en faisant écho donc à cet ouvrage, Guide des sanctuaires mariaux de France, de Dominique Letourneau. Dans son ouvrage, il nous l'a dit tout à l'heure, il a répertorié 2900 lieux de dévotion mariale en France. Ça fait quand même un certain nombre par département. Et on constatait avec lui que la France est couverte de lieux de dévotion, petits ou grands. Est-ce que l'Aveyron n'échappe pas à la règle ?
Oui, c'est assez considérable comme constat, mais la vérité est la même partout en France. Et je serais intéressé de me plonger dans le livre que vous évoquiez à l'instant pour vérifier si l'ensemble des chapelles dédiées à Marie en Aveyron sont effectivement recensées. Quand on regarde le territoire de près, je crois que dès que nous avons une hauteur, une colline un peu élevée ou retirée des agglomérations, on y trouve un lieu de pèlerinage et une chapelle dédiée à Marie. Donc je rejoins tout à fait ce constat, même si il est assez surprenant de voir, malgré la réalité présente de l'Église et difficultés pastorales qu'elle rencontre, autant de chapelles que les gens entretiennent et où ils aiment se retrouver pour prier.
Alors c'est justement un peu l'ambiguïté qu'il peut y avoir autour de ces sujets avant qu'on parle de Notre-Dame de Seignac, c'est que on hésite entre y voir là une on va dire une réalité culturelle et la trace d'une histoire auquel les gens sont attachés, et en même temps on entend dire aussi que de plus en plus de gens viennent dans ces sanctuaires. Alors est-ce à dire que tous ces lieux parfois petits de dévotion mariale continuent de drainer des personnes, de voir venir des personnes. Qu'est-ce que le pasteur que vous êtes dirait sur ce sujet ?
Oui, je dirais simplement, avec ma petite expérience des sanctuaires aujourd'hui, et particulièrement à Seignac, un des traits communs de ces lieux de dévotion, c'est l'imprévu de Dieu. Je crois justement dans les périodes de crise ou de difficultés, Dieu continue d'agir. Et je crois que ces petites chapelles et ces sanctuaires qui drainent un peu partout le territoire national sont comme des lieux où les gens trouvent un refuge, un peu de paix, le sens de la prière, des choses simples que peut-être nous avions parfois oubliées, engagées dans nos projections pastorales ou notre manière de faire avancer l'Église méthodique, cadrée, organisée. Dieu passe où il veut et quand il veut. Et l'histoire nous montre, à travers les sanctuaires, que le Seigneur est capable de rejoindre les gens de manière tout à fait imprévue et par des chemins qu'on n'avait pas imaginés.
Alors, Notre-Dame de Seignac, dans ce guide des sanctuaires mariaux de France, je vous le transmettrai, quand on va à la page Aveyron, donc département qui est le 12, on tombe donc sur Notre-Dame des Monts, dit Notre-Dame de Seignac, et on peut y lire donc que c'est un très vieux lieu de dévotion, puisqu'il aurait été fondé par Saint Martial au IIIe siècle. Racontez-nous un peu l'histoire de ce lieu.
Oui, je crois que l'histoire du sanctuaire de Seignac se confond avec l'histoire du christianisme en Aveyron. C'était un des premiers lieux d'évangélisation du territoire des Rutènes. Et alors, l'antiquité est telle que c'est difficile d'en retrouver des traces historiques. Mais la tradition veut qu'effectivement Saint Martial, qui se retrouve dans l'histoire du territoire en Occitanie du Nord-Ouest pour l'évangélisation des premiers siècles, serait passé là et aurait fondé une première chapelle dédiée à Notre-Dame des Monts, à côté d'une petite église de Sainte-Marie-Madeleine dans les forêts du Rouergue, et l'évangélisation de la région aurait pu démarrer de ce sanctuaire.
Alors là, c'est, on va dire, pour le tout début, et puis si on continue un peu l'histoire, il y a aussi l'histoire d'un prince palatin aveugle. Racontez-nous l'histoire de ce prince.
développé dans l'histoire, qui a pris de l'ampleur. Nous ne savons pas comment ce prince a découvert la réalité de cette chapelle au fond du Rouergue. Il venait de région du Palatinat.
Donc au XIIe siècle, je précise.
Voilà. Et il est venu prier dans cette chapelle, demandant la guérison parce qu'il était aveugle. Et Marie lui a accordé cette... Il a retrouvé la vue dans la basilique de Seignac. Et on doit dire que c'est peut-être là le départ d'une grande notoriété pour le sanctuaire. Et un pèlerinage s'est constitué de manière beaucoup plus régulière à partir de ces miracles qui sont apparus donc à partir du Moyen-Âge dans ce lieu.
À propos de l'histoire, donc de nombreuses guérisons donc, s'y produisent à partir du XIIe siècle, peut-on lire ? On peut imaginer comme au sanctuaire de Bétarame ou à Notre-Dame de Guérison qu'on a cité aussi, il y a des ex-voto dans cette basilique de Notre-Dame de Seignac qui sont la trace de toutes ces grâces, de toutes ces guérisons qui ont été accordées ?
Malheureusement, les ex-voto ont été retirés et détruits beaucoup dans les années 50. Mais on a gardé quand même les traces des ex-voto du 19e, des sortes de petits cœurs dorés qui étaient des offrandes faites par les paroisses pour rendre grâce des protections reçues de Marie. Et puis le sanctuaire a la chance aussi, je crois, au-delà des ex-voto, d'avoir une relique extraordinaire. Nous avons un morceau du voile de Marie conservé dans le sanctuaire de Seignac, un peu comme à Chartres. Et c'est vrai que l'histoire du sanctuaire veut que la famille d'Arpajon qui veillait sur le lieu avait des liens avec la cour de France et a obtenu que sur le territoire autour de Seignac, on ait ainsi des reliques assez prestigieuses qui ont aussi attiré beaucoup de monde et peut-être ont accentué cet effet de foi autour du sanctuaire qui a permis aussi de nombreux signes de guérison et des miracles.
Alors juste, le voile de Marie, qu'est-ce que c'est ?
C'est un coffre en argent du XVIIe siècle. Dans lequel est précieusement conservé un morceau d'étoffe que la tradition reconnaît comme être un morceau du voile de Marie. Je ne sais pas exactement comment il est venu dans le sanctuaire. On pense que certainement c'est par la famille d'Arpajon qu'on en a hérité. Mais disons que c'est une relique assez précieuse qui est gardée dans le sanctuaire à l'abri, bien sûr, et que nous sortons pour les grandes fêtes et que nous proposons à la vénération des fidèles.
Alors, pour finir et pour parler du présent, vous êtes donc recteur de la basilique donc Notre-Dame de Seignac, de ce sanctuaire, depuis 2016. J'ai cru comprendre qu'en accord avec votre évêque, c'était un lieu que le diocèse travaillait à remettre en valeur. Et aujourd'hui, il y a toute une pastorale qui se monte autour de ce sanctuaire, entre autres animée par une communauté qui n'est pas très connue, qui est la communauté Notre-Dame de Vie, de spiritualité carmélitaine. Racontez-nous un peu le projet pastoral autour de Notre-Dame de Seignac.
Voilà, notre évêque a eu l'intuition de relancer et d'encourager les sanctuaires en Aveyron, et particulièrement ce sanctuaire qui est emblématique pour les Aveyronnais, donc qui est un lieu de rassemblement diocésain assez naturel. Donc il a ressenti que les chrétiens pouvaient se rassembler là autour de Marie et qu'on pouvait peut-être y trouver un renouveau pour la foi dans notre diocèse et un nouvel élan missionnaire. Alors il m'a demandé de prendre en charge l'animation du sanctuaire, effectivement assisté par l'Institut Notre-Dame de Vie qui nous a rejoint il y a quelques années. Un institut qui a été fondé par le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a été béatifié il y a quelques années.
Qui est aussi un enfant de votre pays.
Oui, et qui connaissait bien Seignac. Et nous avons également une communauté religieuse, des Sœurs de Sainte-Marie, qui nous ont rejoints. Et on a essayé ensemble de recréer un bureau du sanctuaire, organisant des événements. Alors, croyant à la régularité des propositions, on a commencé par remettre en place une messe pour les pèlerins toutes les semaines. Donc, chaque samedi à 11h, les pèlerins sont les bienvenus à Seignac pour une eucharistie où nous présentons leurs intentions de prière. Ils peuvent rester sur place pour pique-niquer ou se restaurer. Si les groupes sont organisés l'après-midi, on propose des animations. Mais c'est vrai qu'on a mesuré l'importance de la régularité de la proposition et chaque samedi, nous avons aujourd'hui entre 60 et 200 pèlerins qui se retrouvent dans la basilique de Seignac.
Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher tous ces pèlerins au sanctuaire et qu'est-ce que vous leur proposez ? Est-ce que, comme vous le disiez un petit peu plus tôt dans notre entretien, ils viennent chercher des choses, on va dire, le béaba un peu de la vie chrétienne, c'est-à-dire d'apprendre à prier, de trouver la paix, de nouer une relation avec Marie. Qu'est-ce que vous essayez de leur apporter en priorité ?
Vous êtes touché par ces fioriti ou ces éléments vécus par les pèlerins dans les sanctuaires, je crois qu'il faudrait vraiment qu'on se penche sur les cahiers d'intercession, vous savez, que nous mettons dans ces églises et ces basiliques. Et je crois que le secret du sanctuaire de Seignac, comme ailleurs, c'est de regarder dans ce livre où les pèlerins inscrivent leurs intentions de prière. Et je vous assure que c'est extrêmement touchant de voir les personnes ouvrir leur cœur, finalement, devant Marie et devant le Seigneur, pour les épreuves de leur vie, pour des maladies, pour des divisions en famille, pour les besoins de réconciliation. Je crois que nous retrouvons là, finalement, ce qui est le fond de toute prière chrétienne, quand elle se tourne vers Dieu et comme sans autre recours. Je crois qu'il y a l'expression d'une foi extraordinaire dans la pauvreté de ces gens les plus simples qui viennent demander à Marie un secours et une protection.
Eh ben merci beaucoup Christophe Battu d'être venu donc au micro de Vivante Église pour cette émission donc sur les sanctuaires oubliés, enfin pas tous aussi oubliés que ça, de France et d'Occitanie, mais en tout cas vous aurez compris, chers auditeurs, l'intention de cette émission. Notre-Dame de Seignac, Bétarame et les dizaines voire les centaines de sanctuaires à découvrir ou à redécouvrir dans notre région d'Occitanie ou de Midi-Pyrénées, c'est entre autres dans un ouvrage donc Guide des sanctuaires mariaux de France, paru aux éditions Artege. Un grand merci à tous. Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.